Europe 1, 10h, 11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et oui, c'est Mediapolis avec vous, Catherine. Cette émission est réalisée, comme d'habitude, par l'excellent Jean-Luc Arblade et préparée avec Capucine Patouillet. Et avec nous, notre invitée, une femme essayiste, journaliste, réalisatrice, universaliste, polémiste, intellectuelle, courageuse, Caroline Forest, auteure de Génération offensée, de la police de la culture à la police de la pensée. Votre livre tombe décidément, hélas, à pic, vu certains des sujets d'actualité que nous allons traiter. Pas forcément, heureusement, le premier, qui commence avec l'ami Canclou.
La décision du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de publier chaque mois les chiffres de la délinquance est assez mal accueillie par certains syndicats de police. Ils redoutent la pression du chiffre. Comme du temps, disent-ils, de Nicolas Sarkozy.
Voilà. Oui, bonjour à vous et surtout, merci de m'accueillir à toutes et tous.
D'accord. Alors, on compare beaucoup le style de Gérald Darmanin au vôtre. Hein, l'allure, le ton, l'omniprésence médiatique, le côté rentre-dedans.
La taille.
À la taille, moi j'ai rien dit.
Dites-le, vous l'avez pensé, parce que maintenant j'ai plus le droit de rien dire, c'est ça. Oui, ben écoutez, il me ressemble. C'est vrai qu'on dirait un peu moi, mais quelque part moins bien.
Ben oui, il fait tout comme vous. Hein. Il est en permanence sur le terrain. Il pique les éléments de langage au Rassemblement National. Il est hyper actif. Hein,
oui, bonjour à tous. C'est voilà. Super flic. Je suis là. Je suis là. J'arrive. Je suis partout de toute façon. Voilà. Regardez toutes les caméras qui me suivent. Mais tout comme Nicolas Sarkozy. La politique spectacle, c'est mon truc. Enfin, il m'a tout appris. Voilà. Ah, salut papa. Ça va? T'as vu papa? J'ai bien travaillé. On parle de moi tous les jours. Hein.
Gérald, calme-toi, hein, je ne suis pas ton père, d'accord?
Bon, alors vous avez promis, Gérald Darmanin, un point mensuel sur la délinquance, avec des chiffres, hein, dites-moi.
Voilà, des chiffres, c'est imparable. Tiens, je vous donne les chiffres de la lutte contre la délinquance. Plus de 1470 attentats évités, 160 barbes de salafistes de taillés, 430 imams épilés, 8900 amendes pour consommation de stupéfiants, c'est pas rien, vous voyez la répression, dont deux de payés, trois.
Sur 8000, plus de 8000, oui.
Voilà, vous l'avez compris, je suis ici, mais je suis partout, je suis en banlieue, je vais être 12 fois à la télé par jour, je fais l'événement en permanence.
C'était hier matin sur Europe 1, Nicolas Canclou, bien entendu, Nicolas Sarkozy et son « Merci de m'accueillir », assez célèbre. Catherine, le fait de décider de publier les chiffres de la délinquance tous les mois, est-ce que c'est une bonne idée pour essayer de mettre en valeur le travail répressif ou est-ce que c'est une mauvaise idée parce que on risque d'abord de ne rien y comprendre, ensuite de se contredire, éventuellement d'avoir des mauvais chiffres?
Bah, d'abord, ils sont déjà publiés tous les mois. Il n'y a qu'à voir les statistiques du ministère de l'Intérieur. Ça veut dire qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est au ministre de l'Intérieur de les annoncer chaque mois? Donc, s'il veut les annoncer, c'est une décision politique. Et pour qu'il y ait le message, ça veut dire que ça ira mieux. Ça va mieux. Parce qu'on les publie. Je veux dire, c'est pour ça. Ce n'est pas pour dire que ça va plus mal. Bon. Mais si c'est pour dire que ça va mieux, je veux dire, est-ce que... Quand quelqu'un viendra se plaindre au poste de police, est-ce qu'on prendra simplement une main courante qui ne m'est pas inscrite dans les... On recevra la plainte, vous voyez? Oui. Moi, je pense que c'est de la com, vous voyez?
D'accord. Mais ouais. La com, il en faut aussi. Et vous pensez quoi là-dessus, si tant est que ça vous fasse penser quelque chose, Caroline Forest?
Bonjour Olivier, bonjour Catherine. Et ça me fait penser que, malheureusement, la culture du chiffre comme ça, sous Nicolas Sarkozy, elle a été une catastrophe pour la police, pour la sécurité... La culture du chiffre, c'est ce qui a fait que des policiers, pour avoir des bâtons et des primes, se sont mis à multiplier des contrôles ou à transformer, comme vient de le dire Catherine, des mains courantes en plainte, enfin des artifices qui leur ont fait perdre énormément de temps, qui ont multiplié des contrôles, qui ont créé beaucoup de tensions, alors qu'ils ont besoin de temps, ces policiers, pour vraiment travailler. Et donc, je suis ni de ceux qui veulent appliquer la culture du chiffre à la police, ni tout mesurer au seul chiffre de la délinquance, ni de ceux qui veulent nier qu'il existe une montée de la violence dans la société. Mais c'est autre chose, la montée de la violence dans la société.
Et alors, sur cette montée de la violence, évidemment, à continuer, même si maintenant on peut espérer que ce soit terminé, la controverse sur ensauvagement, un mot qu'on peut utiliser, qu'on ne peut pas utiliser. Écoutez Stanislas Guérini, le délégué général de LREM et député de Paris, qui était l'invité de Sonia Mabrouk avant-hier matin.
J'entends cette préoccupation pour avoir une sécurité au quotidien. Je crois que ça ne doit pas être un grand débat de mots, ça doit être un sujet d'action.
Les mots sont importants, le diagnostic,
bien entendu,
pour combattre.
Et d'ailleurs, parfois, je trouve ça un peu étonnant qu'on passe autant de temps à savoir si tel ou tel mot est adapté.
Mais utilisez-le, ce mot. Enfin, là, vous voyez, on dirait que c'est un mot tabou, l'ensauvagement.
Mais pas du tout.
Alors, fausse querelle ou les mots comptent ou...
En politique, parfois, il faut utiliser des mots forts, mais je crois que ça ferait du bien à tout le monde de lutter aussi contre les inconscients douteux qu'ils peuvent parfois soulever. Donc, qu'il y ait un débat, par exemple, entre le ministère de l'Intérieur et de la Justice sur ces mots forts, c'est à peu près normal, ils ne remplissent pas la même fonction, moi ça ne me choque pas du tout. Ce qui m'ennuie, c'est que parfois les mots forts sont utilisés en politique pour masquer des défaillances. Sous Nicolas Sarkozy, il y avait beaucoup de mots forts, mais la réalité, c'est qu'on a retiré des policiers, on a désorganisé les renseignements généraux.
Vous n'allez pas nous faire toutes les missions sur le bilan de Sarkozy, quand
même. Non, mais si, parce que là, il y a une école
politique. Nous sommes en 2020.
Je comprends bien, mais il y a une école politique qui est en train de se reproduire. Donc j'espère qu'on ne va pas reproduire ces erreurs-là, parce qu'il faudrait aussi en tirer le bilan, et on ne l'a peut-être pas assez fait. Par contre, moi, je pense qu'on a tort de nier qu'il y a une montée de la violence, comme le font certains sociologues, toujours les mêmes depuis des années. Je ne pense pas qu'on évitera la peur et l'angoisse des Français en tordant des statistiques et en niant des faits. D'abord, ça n'a jamais empêché ça, la récupération de l'extrême droite, et ça n'a jamais fait reculer le sentiment qu'on était en insécurité. La violence, elle monte sur les réseaux sociaux où la violence verbale est libérée, elle monte parce qu'on sort de périodes d'attentats et qu'on ne peut plus parler aujourd'hui ou dessiner sans être menacé, elle monte parce qu'on sort d'une période de contrainte de liberté, on est en plein virus, et qu'il y a des décompensations psychiques, psychiatriques, qui font que nos interactions sont de plus en plus violentes. Ça, on ne peut pas le nier.
Alors, il y a un autre débat qui court et qui monte, c'est celui autour, d'une part, des opinions et d'une partie des musulmans de France, et d'autre part, des perspectives de loi contre le séparatisme. On y vient dans deux minutes.
Europe 1. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Caroline Fouresse, vous avez forcément vu cette enquête de l'IFOP qui a interrogé, alors il y a discussion sur la valeur de l'échantillon ou pas, mais qui a interrogé un nombre plus élevé de personnes que d'habitude pour disposer d'un sous-échantillon de 500 personnes se reconnaissant de confession musulmane, terminologie d'ailleurs un peu ambiguë, et qui montrait d'une part un décalage fort sur la perception de la publication des caricatures par Charlie, on y viendra tout à l'heure, un décalage moins fort, mais quand même significatif, d'une petite partie des 15-24 ans qui ne se sentaient pas concernés ou ne voulaient pas condamner l'attentat, et peut-être plus impressionnant encore, un pourcentage du coup, assez élevé de cet échantillon, disant qu'ils considéraient que les lois de leur religion devaient être supérieures aux lois de la République. C'est sur ce dernier point que je voudrais m'attarder. Est-ce que d'abord ça a été une surprise pour vous, l'ampleur de ce chiffre? Et qu'est-ce qu'on fait dans une situation pareille?
Ah non, parce que moi c'est ce qui... Alors pour le coup c'est mon obsession. Depuis le procès des caricatures en 2006, quand j'ai compris qu'on n'arrivait pas à être entendu des jeunes, j'ai cessé d'être obsédée par cette crainte, de me dire, au fond, qu'il y ait des intégristes... qui redeviennent très agressifs, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y ait une complaisance, voire qu'ils puissent trouver des sympathies dans la jeunesse. Et plus encore, j'élargis quand même, parce que bien sûr qu'il y a une reconfessionnalisation des identités qui touche encore plus les jeunes musulmans. Mais sincèrement, on a une confusion autour de la jeunesse sur les questions de blasphème, de laïcité, de débat d'idées en général, qu'ils confondent très souvent, parfois au nom de la tolérance, de l'antiracisme, de plein de bons sentiments qui sont nobles et qui sont la qualité de cette génération, qu'ils confondent avec des critiques des identités de l'autre, au point qu'ils sont un peu ébigots et un peu coincés du débat, si vous me permettez cette expression. Ouais. C'est ça qui m'inquiète, c'est pour ça que j'ai écrit Génération Offensée, pour essayer de détricoter cette confusion et d'essayer de leur redire ce qui est l'esprit de Charlie, mais ce qui est l'esprit en général de notre débat public. Non, on peut avoir des débats contradictoires très forts sur les idéologies, les croyances, qui sont aussi des idéologies, et ce ne sont pas forcément des atteintes ou une forme d'incitation à la haine contre les identités de l'autre.
Oui, mais il n'y a pas que dans la jeunesse ou une partie de la jeunesse musulmane. C'est un phénomène assez général. D'ailleurs, votre livre le démontre à beaucoup d'égards.
C'est ce que je viens de dire.
Musulman ou pas, qu'on refuse le débat, on assigne les gens à leur identité, on les coince dedans, on veut empêcher des conférences.
C'est tout à fait ce que j'essaie de dire, c'est que c'est générationnel avant d'être seulement confessionnel.
Mais en revanche, ce qui est confessionnel, c'est l'autre chiffre, c'est celui
sur les lois de la République, oui. Complètement.
Et alors, là, Catherine, je me sens partagée sur cette question, parce que d'un côté, c'est problématique, de l'autre, on a le droit, il n'y a pas d'ailleurs, c'est pas d'ailleurs le cas que chez les musulmans, on a le droit de considérer pour soi que les lois religieuses sont plus importantes que les lois de la République, même si on doit respecter...
Ah bah non, parce que c'est jamais pour soi, pardon, si on considère que les lois religieuses sont supérieures à les lois de la République, c'est qu'on a une conception du respect des lois qui ne va pas se limiter à soi.
Non, ça dépend comment on l'interprète. Par exemple, vous pouvez, je vous prends un exemple, vous êtes catholique très conservateur, vous considérez que l'avortement est un crime. Personne ne peut vous obliger à avorter. Là, d'ailleurs, la loi de la République ne vous y oblige pas. Mais vous pouvez considérer que...
Mais quel drôle d'exemple, écoute, franchement. Là.
Pourquoi
oui. Mais je ne sais pas, je veux dire... C'est... Oui, alors, continue.
Non, mais je prends un exemple...
Non, mais c'est juste, mais de fait, la loi qui garantit le droit à l'avortement est supérieure au fait d'être contre l'avortement. On a le droit... C'est pas la même chose de ne pas vouloir avorter, ça, on a évidemment le droit, oui. Que d'empêcher les autres d'avorter, parce qu'on considère que sa conception du sacré est supérieure à la loi qui autorise l'avortement.
Bon, alors, je vais prendre un exemple plus cool,
non, mais c'est valable.
Qui est celui de ne pas manger de porc. Où est-ce que ça devient difficile ? C'est pas si... pour soi, personne ne vous oblige à manger du porc. Mais c'est pour vos enfants. Jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut...
Écoute, si là, cette différence religieuse, elle ne s'exprime que par doit-on manger du porc ou pas, ça peut s'arranger dans les cantines et ça pose aucun problème. C'est pas parce que, je veux dire, c'est...
Ah, ça
c'est...
pose aucun problème. Il y a un débat. Il y a des gens qui considèrent que la laïcité fait qu'on ne devrait,
dans la plupart des écoles, maintenant, on s'arrange pour que les enfants aient le choix dans des cantines et tout ça. C'est pas un problème. Il ne faut surtout pas en faire un problème.
Il ne faut pas se polariser sur des petites
choses. Mais non, ça ne sert à rien. C'est comme ça qu'on crée des radicalités.
On a fait 100 fois ces débats. On a trouvé les solutions. Moi, j'en parlais déjà dans Génie de la laïcité. Il suffit de faire des cantines avec des options. Menu végétarien, menu avec ou sans viande. Et le but, c'est de... La grande subtilité de la philosophie républicaine universaliste, quand elle n'est pas instrumentalisée par des gens qui veulent nier les identités et les minorités, c'est de permettre à chacun de s'énoncer, de trouver dans sa liberté qui il est, sans y être constamment ramené et assigné. C'est très subtil à expliquer aux nouvelles générations. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est de leur dire, ne confondez pas, ne pensez pas qu'on cherche à nier qui vous êtes, ni dans votre religion, ni dans votre particularité. On cherche juste à dire que vous n'êtes pas que les enfants de vos parents, que les enfants de votre culture, que les enfants de l'origine de vos parents. Vous avez le droit d'être qui vous voulez. Et en fait, c'est un modèle de fluidité des identités. C'est un modèle non binaire du respect de chacun et des individus qu'on essaie de défendre. Et c'est très philosophique, c'est très subtil et c'est de moins en moins compris.
Oui, parce que vous dites ça, c'est très intelligent et on vous suit. Mais pour que des enfants accèdent à ce débat, ils doivent être formés très intellectuellement, maîtriser très bien le français, avoir lu des textes, avoir eu des professeurs qui les amènent à réfléchir.
C'est juste.
Et ce qui n'est absolument pas le cas à l'école, ce qui n'est pas le cas dans leur famille. Et lorsqu'ils sont dans leur famille, ils ont plutôt tendance à écouter ce qui est proche de la famille, y compris les religieux, et ils n'entendent qu'un seul discours. Donc ils ne sont pas aptes à cette culture de la République, et c'est ça qui crée l'apartheid.
Et c'est le vrai
débat. Compte tenu de cette importance absolue, et là, en tout cas, tous les trois, on est déjà d'accord, ce qui est beaucoup, sur l'école et l'éducation au-delà, est-ce que par ailleurs, il y a une place pour nécessité d'une loi contre le séparatisme ou pas ? Réponse dans 2 minutes, ou plus exactement dans 2 minutes, on va faire entendre à Caroline Fourest quelqu'un qu'elle apprécie modérément, ce qui lui permettra de réagir.
Europe 1, Mediapolis, Olivier Duhamel.
Alors, comme on ne sait pas encore ce qu'il y aura dans la future loi sur le séparatisme, il est possible que Catherine Ney et Caroline Fourest n'aient rien à en dire. Mais comme Alexis Corbière en a dit quelque chose, on va la faire écouter Alexis Corbière. Et là, peut-être qu'elles auraient quelque chose à dire sur ce que dit Alexis Corbière. On y va.
S'il s'agit derrière cette loi uniquement de porter le fer contre l'islam, les associations qui sont animées par des gens qui sont de confession musulmane. En faisant un amalgame incompréhensible qui mélange tout, en ayant une vigilance, en traquant véritablement des animateurs sportifs qui ont des convictions spirituelles, moi je ne suis pas d'accord. Par contre, que les choses soient claires, évidemment, à l'heure actuelle, il faut travailler à ce qu'il n'y ait pas, derrière une association d'aide scolaire, je ne sais trop quelle activité sectaire.
Député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière sur France Info, mardi.
Écoutez, j'ai connu Alexis Corbière laïque, j'ai connu des gens chez les Insoumis qui étaient laïques. J'avoue que je ne les reconnais pas beaucoup ces derniers temps parce que je trouve qu'ils font, eux, beaucoup d'amalgame entre justement le fait de vouloir dénoncer des associations qui, sous couvert de soutien scolaire ou qui, sous couvert d'être éducateurs, sont en fait des individus qui font du prosélytisme intégriste. Et ça devrait tous nous réunir sans alimenter, pour des raisons politiciennes qui me dégoûtent un petit peu en réalité, ces confusions. En réalité, il y a tout ce qu'il faut dans la loi, probablement. Il y a juste une chose qui ne va pas exactement à cause de ce qu'on vient parfois d'entendre, c'est qu'il y a des élus locaux aujourd'hui. Ça concerne la France Insoumise, ça concerne beaucoup Europe Écologie Les Verts, mais ça concerne aussi beaucoup de maires divers droites. En fait, ça concerne quasiment tous les maires et les élus locaux qui font du clientélisme confessionnel et qui parfois font même de la complaisance envers des réseaux intégristes parce qu'ils pensent qu'ils sont représentatifs de leurs électeurs.
Bon, religieux. Sur les élus, je comprends, mais les associations, coup, on n'a pas le droit de faire une association qui essaye de répandre la pensée salafiste ?
Alors, Olivier, la question, c'est est-ce qu'on doit les subventionner ? La question, c'est celle-là. La question, c'est est-ce que la République doit encourager et subventionner des organisations intégristes qui militent contre la République ? La réponse, elle est non. Et c'est pour ça que...
Ce
que je crois comprendre potentiellement utile dans cette loi, mais je demande à l'avoir pour avoir un avis définitif, c'est que ça peut permettre à des préfets, éventuellement, d'avoir un peu plus de pouvoir sur des décisions prises par des élus locaux qui, pour des raisons de clientélisme, ont tendance à flatter ces discours anti-républicains.
Alors, dans son discours sur au Panthéon, Emmanuel Macron a énoncé « Il n'y aura jamais de place en France pour ceux qui, souvent au nom d'un dieu et parfois de l'aide de puissances étrangères, entendent imposer la loi d'un groupe. » Bon, ben, ils sont là, ceux qui le font aujourd'hui.
Et il y a des moyens de police. Je veux dire,
un peu vague, cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, justement.
Imposer la loi d'un groupe. Les catholiques ultra-traditionnistes, ils entendent imposer leur conception à la République et ils n'y arrivent pas. Les salafistes, ils entendent le faire et ils y arrivent.
Et eux,
Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Attendez.
Ne se mettent pas hors de la République et ne disent pas que les lois de le catholicisme les met...
C'est pas la même chose.
Pas la même chose.
Attendez, c'est pas la même chose de prôner des conceptions religieuses, archaïques, traditionnalistes, etc. et de violer les lois de la République. On a le droit d'être un traditionnaliste musulman, juif, catholique,
c'est la différence,
que sais-je encore.
C'est la différence entre le traditionnalisme et l'intégrisme. L'intégrisme commence quand vous voulez imposer aux autres votre vision traditionnelle de la religion. Si je peux faire une autre précision, la différence entre l'intégrisme chrétien et musulman aujourd'hui, et c'est pour ça que les politiques s'en saisissent plus...
L'intégrisme chrétien n'appelle pas, dans ses formes extrêmes, au terrorisme déjà.
C'est le risque terroriste qui fait que tout le monde est concentré sur l'intégrisme musulman. Mais néanmoins, j'ajoute, parce que par contre, je pense qu'il y a un manque de courage politique à regarder ça aussi, que l'intégrisme chrétien se porte très bien dans ce pays, qu'il y a un nombre d'écoles confessionnelles catholiques qui, comme autant des congrégations religieuses, recommencent à appeler à la défiance envers la République, au complotisme et à l'antisémitisme, que nous ne regardons pas, parce que ça, aucun politique n'aura le courage. Il y a des rapports qui ont été rendus sur cette dérive de ces écoles-là, et ça, personne ne s'en occupe, parce que ce serait beaucoup moins porteur dans l'opinion publique que de s'intéresser, et il faut le faire, aux dérives de l'intégrisme musulman.
Allez, on passe au procès Charlie. Vous avez assisté, rappelons, parce que tous nos auditeurs ne le savent pas, que vous avez collaboré quelques années, vous étiez journaliste
à Charlie
Hebdo.
Pendant toute l'affaire des caricatures, pendant 5 années. Évidemment, je suis très en lien avec l'équipe, on se parle beaucoup, je sais c'est très dur pour eux. C'est un moment difficile. C'est pas tout à fait le procès qu'on aurait pu espérer parce que c'est le procès des petites mains du crime et pas des pouces au crime. Moi, il me manque des gens dans ce box des accusés. Je pense qu'il manque le commanditaire d'Al-Qaïda Yémen, même symboliquement, même par contumace. Il y a des commanditaires et des recruteurs qui ont participé à la chaîne humaine terroriste et qui a tué, qui ne sont pas dans ce box des accusés. Ça, c'est dommage. C'est ce qui en fait un moins grand procès. Ce qui en fait un grand procès, en revanche, c'est la dignité, la beauté des témoignages qu'on a entendus à la barre de la part des familles, des membres de Charlie, des proches des victimes. C'est juste incroyable.
Oui, d'ailleurs des victimes, mais qui d'ailleurs disent « je ne veux pas entendre ce mot de victime ». Je vaux et je le mets au-dessus de tout, entendre le mot innocent, a dit l'un d'entre eux.
Non, ils ont tous été à l'image des gens qu'on a perdus. Ils ont été tendres, ils ont été beaux, ils ont été dignes, ils ont été courageux. Et pour moi, le moment où ce procès, quelque part, est déjà gagné, c'est ce qu'on a vécu en 2006, au moment du procès des caricatures. En 2006, on n'arrivait pas à se faire entendre, mais on a estimé qu'on avait finalement gagné quand l'avocat de la Ligue islamique mondiale, donc, qui représente l'Arabie saoudite et les wahhabites à la barre à ce moment-là, qui faisait évidemment une tête d'enterrement, vous l'imaginez, depuis le début du procès, quand après avoir vu plusieurs dessins de Charlie, que montrait Richard Malka en disant « si vous voulez l'égalité de traitement, il faut accepter tout ce qu'on fait sur l'Église catholique, sur le pape, il faut que vous acceptiez ça ». Et devant un énième dessin de Charlie sur les catholiques, s'est mis à rire. Et quand on a vu que l'avocat de la Ligue islamique mondiale n'était plus intolérant, n'était plus insensible au rire, on s'est dit qu'on avait gagné. C'est ce qui s'est passé là, ces jours derniers, hier, à la barre, ou avant-hier, sur deux jours, quand on a montré des dessins de Charb et que des gens de ces petites mains du crime qui ont participé à les tuer, à tuer leur talent, ont commencé à rire en voyant les dessins de Charb qui se moquaient, en l'occurrence même du voile. Et ben là, je me dis que c'est là que ce procès peut être grand grâce à ces moments-là.
Oui, je pense que, je ne sais pas ce qu'on pense, Catherine Nel va nous le dire dans quelques instants, plus directement dans quelques minutes, juste un mois avant la pause. À la fois ça va mieux, il y a beaucoup beaucoup plus de gens qui pensent aujourd'hui qu'il faut publier les caricatures qu'il y en avait en 2006, mais 20 points de plus, ce qui est énorme.
C'est notre victoire, ça.
Le procès est couvert et correctement couvert, et en même temps ça va pas mieux parce que des journalistes d'un journal sont obligés de vivre sous protection policière et d'exercer leur métier dans un bunker et dans un lieu anonyme, ce qui est épouvantable. Catherine, dans deux minutes, juste après la pause.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Oui, Catherine Ney, donc nous avons entendu l'évocation des témoignages par Caroline Fourest, si proche d'eux. Vous pensez que la situation a plutôt, au sein de l'opinion et de la classe politique, par rapport à ça, évolué plutôt favorablement? Enfin, si on considère que c'est favorablement ce qui est mon cas, le fait que en 2006, il y a eu quand même beaucoup de voix, y compris chez les politiques, disant il ne faut pas de provocation, blablabla, etc., à droite comme à gauche, et que là, on n'entend plus ce discours-là.
On ne l'entend plus, mais il y a ce qu'on dit et ce qu'on pense au fond. Il y a beaucoup se disent, est-ce qu'on est libre quand pour être libre, il faut se cacher, demander la protection policière et risquer un nouvel attentat? Est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on est libre de risquer sa vie, de refaire des malheureux, des familles?
C'est-à-dire on les pousse dans des situations extrêmes pour garder notre liberté.
Alors, Caroline dit que le procès, c'était formidable parce que des gens riaient. Bon, mais ils sont une poignée à rire. Quand des foules au Pakistan, ou en Turquie, en Égypte, déjà, tendent le poing contre la France. Et il suffit de trois excités, voilà, pour recommencer.
Ça s'est surtout passé au Pakistan. Hein. Le monde arabo-musulman ne s'est pas enflammé comme au moment de Salman Rushdie.
Rappelez-vous que dans l'affaire Rushdie, dans l'affaire des caricatures 2006, il y a un contexte géopolitique. Il y a une compétition entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Il y a le dossier syrien, il y a le dossier iranien qui font que ces régimes ont intérêt à agiter des foules. Là, on n'a qu'une foule au Pakistan parce que, je vais vous dire pourquoi, parce que les médias anglais qui écoutent les gens au Pakistan sont absolument irresponsables. On disait, on n'entend plus trop les voix des anti-Charlie, moi je les entends encore, malheureusement. J'ai encore des journalistes anglo-saxons qui expliquent que Charlie a fait une énième provocation en montrant les dessins qui ont causé la mort de leurs collègues. Et que c'est des journalistes qui osent écrire ça. Et pour moi, ils sont responsables de ces mouvements de foule au Pakistan parce qu'ils ne font pas leur métier. On aura gagné, Catherine a raison, quand tout le monde rira.
Et vous aurez gagné quand Charlie Hebdo aura de nouveau pignon sur rue et on connaîtra son adresse.
Sans protection, exactement.
Sans protection. Et pour l'instant, on est loin de l'avoir gagné. Et quand même, la peur est là. Et il peut y avoir même des excités en France, vous voyez, qui sont attisés par des salafistes. Il peut se passer n'importe quoi. Et c'est très dangereux. Je dis, on est libre jusqu'à un certain point. Voyez. Moi, je trouvais que remettre la couverture de Charlie Hebdo, c'était très bien, mais ça aurait été mieux, puisque tout le monde est d'accord, si toute la presse avait remis en même temps toute.
C'est ce qui les aurait protégés. C'est ce qui les aurait protégés en 2006.
Ça veut dire que tout le monde. Personne ne l'a fait. Donc moi, je trouve que c'est très bien de parler de la liberté, mais attention, D'abord, des policiers peuvent être tués à nouveau, alors qu'ils sont là pour protéger. Donc, et la République doit, je veux dire, se doit de protéger ses journalistes qui continuent de faire leur métier, c'est très bien, mais avec les risques qu'elle fait encourir à la société. Allez, donc, ça pose un problème.
On va passer à un sujet d'apparence beaucoup plus léger, alors qu'en vérité, au fond des choses, il touche à une conception de la liberté, notamment de la liberté de création, et il est fondamental. On le fait dans 2 minutes.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Mardi, l'Académie des Oscars a annoncé qu'à partir de 2024, il faudrait respecter des critères de diversité pour pouvoir concourir à la catégorie du meilleur film. Alors, je ne vais pas vous lire l'interminable liste des critères, mais pour qu'on ait une idée, on met 4 critères, il faut satisfaire au moins 2 des 4 critères, hein, déjà ça se complique, à l'écran, au sein de l'équipe du film, dans la formation et l'accès à l'industrie cinématographique, et dans l'équipe qui doit opérer la sortie du film. Et ces critères sont la présence d'au moins 30%, un rôle principal ou un rôle secondaire important provenant d'un groupe racial ou ethnique sous-représenté. Au moins 30% des rôles secondaires de 2 groupes sous-représentés, femmes, groupe racial ou ethnique, personnes s'identifiant comme LGBT queer, personnes handicapées. Donc on a pris on identifie toutes ces catégories et il faut qu'elles aient au moins 30% des rôles secondaires. Et l'intrigue principale, le thème ou le récit, doivent être axés sur un groupe sous-représenté. Ça fait partie des critères à respecter. Donc, vous ne pourrez plus être meilleur film si vous ne satisfaisez pas à 2 de ces 4 critères. Il y a eu un débat très virulent que j'ai assisté devant mon poste sur LCI avant-hier, entre Laetitia Strauss-Bonnard, qui est chroniqueuse au Point, et Laurence Rossignol, l'ancienne ministre chargée notamment à un moment de la question des droits des femmes, et aujourd'hui sénatrice socialiste. Et elle défendait cela en disant « Mais oui, regardez, sans la parité, on n'aurait jamais vu monter le nombre des femmes en politique. » Et en face, Laetitia Strauss-Bonnard objectait.
On est en train de fabriquer un art pompier, j'ai l'impression. C'est-à-dire une sorte de nouvel art officiel qu'on veut hyper réglementer. Je pense qu'il y a plus d'effets pervers dans le fait de vouloir le réguler a priori. Le premier effet pervers étant la question de la création. Comment peut-on décider à l'avance de la composition d'une équipe qui fait de la création? Enfin, moi, ça me semble insensé.
Et dans la même veine critique, Jérôme Jaffré, sur la même chaîne, lui évoquait Jdanov et le réalisme socialiste du temps de Staline. Alors, vous êtes une femme féministe, si je ne me trompe pas, Caroline Forest. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Et je suis aussi réalisatrice de cinéma. Donc,
vous êtes réalisatrice de cinéma.
Et j'ai fait un film de guerre où il y a principalement des personnages féminins, avec une équipe multiculturelle marocaine, juive, homosexuelle.
Et vous êtes homosexuelle aussi.
Et je suis homosexuelle
aussi.
Donc
vous avez tous les critères.
Je suis dans tous les critères.
Pour dire, c'est formidable, enfin, je vais pouvoir faire des films grâce à tout ça.
Eh bien, sauf que non, parce qu'on peut déjà les faire, ces films, que si on regarde les cérémonies des Oscars et des Césars des 10 dernières années, en réalité, les films qui ont gagné remplissent à chaque fois tous ces critères depuis très longtemps. Et on sait même, on le sait bien, que les films qui mettent en avant la diversité sont plus faciles à monter aujourd'hui et à produire, parce qu'il y a vraiment, et tant mieux, un changement des mentalités et des représentations. Et je trouve un peu triste qu'on vienne figer cette évolution qui a lieu naturellement, qui a lieu parce que la société bouge, par des quotas aussi réducteurs. Parce que ça nous enferme, et quelque part, ça nous fait presque reculer. Et je ne crois pas qu'il soit comparable aux démarches comme la parité. C'est pas la même chose, la politique, la représentation nationale et l'art, la création. La création, elle peut pas satisfaire un cahier des charges identitaire. Elle marche pas comme ça. Est-ce qu'on va considérer qu'un film comme Les Frères Sisters de Jacques Audiard, ou même Les Misérables, ou pardon, il y avait quand même pas beaucoup de femmes, hein, c'était quand même un entre-soi masculin et viriliste.
Et puis la femme, la Thénardier, pas terrible en plus.
N'aurait pas dû avoir le César du meilleur film parce qu'il y avait pas de femmes. Je veux dire, est-ce qu'on va rentrer là-dedans? Vraiment, est-ce qu'on va juger des œuvres uniquement sous cet angle-là? En tant que, alors pour le coup, en, En tant que féministe, je trouve ça inutile parce qu'en réalité, la révolution est en train d'avoir lieu et que je pense que les blocages sont ailleurs et que pendant ce temps, on n'en parle pas.
Mais inutile, vous êtes modeste, parce que moi, j'ai lu votre livre « Génération offensée » et vous allez beaucoup plus loin que dans l'inutile. Pour moi, c'est une illustration de la prégnance de ce que vous appelez la gauche identitaire. Mm-hmm. Vous dites qu'il y a deux gauches, il y a la gauche universaliste et la gauche identitaire, qu'il y a une progression de la gauche identitaire et que la gauche identitaire est une catastrophe pour la liberté et une catastrophe pour l'égalité.
C'est vrai, mais je veux pas... Enfin, c'est toujours difficile de faire passer des nuances. Je ne veux pas laisser croire que je suis hostile par nature à toute forme d'encouragement à d'autres formes de représentation. Je pense qu'il y a des fonds pour l'encouragement à la création et la diversité. Pour ça, je pense qu'on peut réellement essayer de mettre des impulsions à cette création. Mais ce n'est pas la même chose que de juger une œuvre d'art sous le critère identitaire.
Catherine Ney.
Oui, mais moi, je crois qu'il n'y a pas besoin d'édicter parce qu'il y a des sujets de films dans lesquels cette obligation de... d'avoir des handicapés ne peut pas se réaliser. Quoi. Ça dépend du sujet de film. Mais moi, je pense qu'il n'y a même pas besoin de l'imposer parce que ces choses se font naturellement. Moi, je regarde le soir sur Antenne 2, en France 2, pardon, le Ainsi grand soleil, qui est un feuilleton. Eh bien, déjà, tout y est à la fois. Les handicapés, les couples homosexuels féminins,
bien sûr.
Les couples masculins homosexuels, les bi. Tout y est. Bon, et là, je crois que c'est complètement maintenant inclus dans la société. Et ce n'est pas la peine de faire du procédé en l'écrivant noir sur blanc. Voilà ce qu'il faut quand on fait une série. Les choses se font. Et moi, je trouve qu'au contraire, je veux dire, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on appelle. Maintenant, c'est comme ça.
Et d'autant que la plateforme aujourd'hui qui est en train de prendre la main, on sait bien que c'est Netflix, qui est très positionnée sur ces questions de minorité. Et moi, j'ai vécu il y a 20 ans... J'ai vécu dans un monde où je n'avais pas de personnages lesbiens dans les films auxquels m'identifier. J'ai vu le changement. Nier l'évolution qu'on est en train de vivre, à mon avis, c'est injuste. On vit une vraie révolution à ce niveau-là. Elle se fait. On n'a pas besoin de donner des arguments à ceux qui n'ont pas envie qu'elle continue.
Il est 10h45 sur Mediapolis. Jusqu'à présent, Catherine Ney et Caroline Forest sont à peu près d'accord sur tout. Et pourtant, l'émission est passionnante. C'est ça qui est bien. Il nous reste, malheureusement ou heureusement... Malheureusement, il nous restera que 5 minutes après l'ultime pause. Et heureusement, on a deux sujets à évoquer, ce qui fait beaucoup. Donc on va faire au mieux. À tout de suite.
Europe 1, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Dans le journal du dimanche dernier, Elisabeth Badinter a publié une tribune contre le néo-féminisme guerrier qui n'y va pas de main morte. Voyez le début. Voilà 3 ans que la déferlante MeToo a ouvert la voie à la parole des femmes. Elles ont pu dénoncer publiquement toutes les agressions sexuelles dont elles se disent victimes. Grâce à elles, la honte a changé de camp. Depuis lors, le néo-féminisme a durci le ton et les méthodes. On ne se contente pas des agressions, on balance les agresseurs présumés. Ce faisant, les plus radicales qui se proclament activistes ont tourné le dos au féminisme d'avant MeToo. Elles ont déclaré la guerre des sexes. Et la suite dénonce ce que Elisabeth Badinter estime des dérives de ce néo-féminisme. Caroline Forest, d'accord ou pas d'accord?
D'abord, il faut toujours écouter Elisabeth Badinter, même quand on peut avoir des nuances.
Si j'ai pour me dire ça, accélérer, parce qu'on a très peu de temps, bien sûr qu'il faut écouter.
Non, mais... parce que j'ai évidemment beaucoup d'admiration pour Elisabeth. Et oui, je partage l'essentiel de son inquiétude vis-à-vis du néo-féminisme. Pour moi, le problème n'est pas qu'il soit guerrier, parce qu'il faut être en guerre contre le sexisme.
On n'est pas obligé, ce genre de terminologie.
Si, c'est une bataille ancestrale, dure, qui, on rencontre des retours de bâton, des contre-révolutions, c'est violent, c'est important. Non, le problème n'est pas d'être guerrier, le problème est d'être injuste et d'être identitaire. On est passé d'un féminisme qui dénonçait le machisme, l'homophobie, donc qui dénonçait non pas les hommes mais les machistes, à un féminisme qui dénonce sur la base des identités. Et ça n'est plus du féminisme. On est passé dans autre chose. On est en train de être rattrapé par cette maladie identitaire qui contamine tout et qui fait dériver des causes. Donc mon problème, c'est pas le fait que certaines soient guerrières. Je viens d'un féminisme radical. Je l'assume, mais mon féminisme radical se bat radicalement contre les discriminations, pas contre les êtres.
Moi, il y a beaucoup de choses que dit Elisabeth Badinter à laquelle j'adhère. Et quand elle dit qu'aujourd'hui, l'homme est la plus dangereuse menace pour la femme, c'est quand même le langage de beaucoup de féministes. C'est un peu agaçant aussi, parce que ça veut dire que tout ce que disent les femmes, et elle le dit d'ailleurs, d'un côté le bien, du côté des femmes, elle est comme si les menteuses, les vengeresses n'existaient pas, et de l'autre côté, les hommes qui sont forcément mauvais. Et ça, c'est vrai. Il y a une vision des choses, comme par exemple ce que dit Alice Coffin, qu'elle... N'ayant pas de mari, elle échappe au viol, des enfants battus, des choses comme ça. Je veux dire, cette généralité, pour moi, est quelque chose d'assez insupportable.
C'est le problème de l'essentialisation, et qu'on a d'ailleurs, en tant que féministe universaliste, toujours combattu. Il y a eu un féminisme essentialiste qui pensait que les femmes étaient naturellement magnifiques, sublimes, douces, et qui omettait que non, bien sûr que les femmes peuvent être des ordures. Et tant mieux, d'ailleurs, nous revendiquons le droit d'être des ordures.
Alors, à propos d'ordures, je ne vais pas dire ça comme ça.
Mais pardon, Olivier, la violence domestique, la violence brutalité, malheureusement, elle est encore souvent du côté de ceux qui sont les dominants et qui sont des hommes. Mais bien sûr, c'est leur violence qui pose problème, pas le fait qu'ils soient des hommes.
Pour terminer, on va rigoler, mais est-ce que c'est drôle? C'est pas certain. Cette semaine, direction les États-Unis, grâce à Alice Baudry, de la direction du marketing et de la communication de l'Institut Montaigne, qui surveille les médias internationaux pour nous, direction USA, avec le journaliste Bob Woodward, qui a dévoilé que lorsqu'il préparait son livre Rage, il avait eu l'occasion d'échanger par téléphone avec Trump et d'enregistrer avec son accord leur conversation pour avoir des preuves. Un article du New York Times met l'accent sur 5 révélations issues de ces entretiens. Tout d'abord sur le coronavirus. Trump l'a qualifié, selon ses mots, d'une chose mortelle. C'est en contraste total avec ce qu'il racontait en public à l'époque, cet hiver. Il a plus tard avoué à Woodward que publiquement, il essayait effectivement de minimiser la gravité du virus. « J'aime toujours le minimiser car je ne veux pas créer de panique », dit-il, enregistré par Woodward. Deuxièmement, des hauts responsables interrogés par Woodward au sujet de Trump ont avoué qu'il trouvait le président dangereux. C'était l'expression notamment du général Mattis, ancien secrétaire à la défense de Trump, qui ajoutait qu'il le trouvait également inapte. Troisième révélation, Trump a dénigré à plusieurs reprises l'armée américaine et ses principaux généraux. Interrogé par Woodward, Trump a qualifié les militaires américains de « suckers », de « nuls », pour avoir consacré trop de moyens pour protéger la Corée du Sud. Woodward se dit particulièrement choqué de la phrase de Trump sur les Coréens. « Nous vous défendons, nous vous permettons d'exister. » Quatrième point, interrogé sur la douleur que les Noirs ressentent dans le pays, Trump a été incapable d'exprimer de l'empathie. On entend Woodward souligner que lui et Trump sont des blancs privilégiés et lui demander s'il peut comprendre leur colère. Et Trump répond « Non ». Vous avez vraiment bu du Kool-Aid, n'est-ce pas? Écoutez-vous, sensationnel. Non, je ne ressens pas du tout cela. Et enfin, Woodward a eu un aperçu de relation entre Trump et Kim Jong-un. Il a eu accès grâce au président au détail des échanges entre eux. Et Kim a écrit dans une lettre que leur relation était comme un film fantastique. Pour illustrer son coup de foudre pour M. Kim, Trump aurait dit « Vous rencontrez une femme en une seconde, vous savez si cela va arriver ou non. » Ce qui est hallucinant dans l'histoire politique, médiatique, médiapolitique, c'est que Trump ait accepté que Woodward, qui était un des deux journalistes qui a révélé le Watergate...
Qui a fait tomber un autre président.
Qui a fait tomber Nixon, un président républicain. Enregistre ses conversations et sans la moindre gêne, lui disent des choses comme... Ce qui revient à dire, je dis le contraire de la vérité sur le coronavirus et s'en fiche complètement. C'est juste, juste hallucinant. Maintenant, pour terminer, comme d'habitude, une chanson. Et la chanson choisie par notre ami, le réalisateur Jean-Luc Arblade, c'est une chanson qui date de 1999. Chère Caroline, c'est aussi en pensant à vous qu'on l'a choisie. C'est une chanson d'Yves Simon, qui avait délaissé la chanson pour la littérature et qui avait expliqué dans l'Express le 28 août, interrogé par Il Medioni, qu'est-ce que la chanson vous a appris? Il répond « Le précis, le court, le concis, un concentré de narration, de sentiments, de dramatisation, tout ce qui fait un style. » Et puis à la fin, il explique que beaucoup de titres de cet album sont parlés ou psalmodiés. Et en effet, il y a une chanson parlée, psalmodiée, écrite pour les femmes afghanes entre les mains des talibans et qui s'appelle « Les souffrantes », chanson de 1999.
Héroïne au secret d'une histoire délirante, ce sont elles les souffrantes. Kaboul, Maboul, les masques foules, l'intégrité et la beauté. Des amantes, des filles, des femmes, des souffrantes, notre moitié. Où sont les yeux des Afghanes? Elles regardent ailleurs et pleurent. Où sont leurs visages? Elle regarde ailleurs, vers l'intérieur. Où sont les yeux des Afghanes? Les chars de guerre ont défilé. Les hommes vainqueurs, inquisiteurs d'intimité, qui ont foulé et défiguré, charges infamantes, les rêves sacrés des souffrantes. sont les yeux des Afghanes. Elles regardent ailleurs et pleurent. Où sont leurs visages? Où sont leurs visages? Où sont leurs visages? La Kalachnikov sur la hanche. Les hommes paradent et se déhanchent, recouvrant de voiles sombres et de pénombre les rêves infinis des souffrantes. Derrière des grilles nommées Chadri, des femmes sont prisonnières, des femmes d'aujourd'hui, héroïnes au secret d'une histoire délirante. Ce sont elles les souffrantes.
Merci Catherine. Nez.
Vous en prie, Olivier.
Caroline Fourest.
Merci à vous deux.
Capucine Patouillet qui a préparé l'émission. Jean-Luc Arblade réalisé et aussi préparé pour la musique. Vous pouvez écouter ou faire écouter l'émission en podcast comme d'habitude sur Europe1.fr. J'ai oublié de vous le dire les semaines précédentes, c'est très très bien. Et en plus, il n'y a pas la pub. Ça, j'ai pas le droit de vous le dire, mais je l'ai dit quand même. Et à samedi prochain. Et en attendant, vous retrouvez l'ami Mariotte.